Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur le 92.2 Radio Nîmes ou radionimes.fr pour les internautes. Et bien dans le cadre des municipales 2026, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Vincent Bouget de la liste Nîmes en commun. Monsieur Bouget, bonjour.
Bonjour.
Merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous pour l'invitation, c'est très agréable.
Alors on va débuter cette interview en parlant de votre programme, mais la première question que je voulais vous poser, et qui n'est pas en relation directe avec les municipales, tient compte de la situation internationale. Ces municipales se déroulent dans un cadre particulier, puisque déjà en 2020 c'était le Covid, avec un deuxième tour qui a eu lieu 3 mois après le premier tour. Là on est en guerre, la guerre en Ukraine et maintenant la guerre à Gaza. Alors je voulais savoir si vous pensez que cette situation internationale peut avoir une incidence sur les élections, et est-ce que les Nîmois que vous avez rencontrés, vous en avez rencontré beaucoup, sont sensibles ou sont inquiets de cette situation internationale?
Oui, alors les élections municipales, c'est les élections locales. Où on choisit une équipe pour gérer un certain nombre de problématiques qui sont des problématiques du quotidien. Et en même temps, évidemment, on ne peut pas se découper. Et donc, quand on voit une situation internationale aussi instable et puis aussi guerrière, ça inquiète beaucoup. Et puis après, il y a des conséquences très concrètes. Hein. L'augmentation du prix de l'essence, elle pèse beaucoup dans le porte-monnaie des Nîmoises et des Nîmois qui ne sont pas nécessairement les personnes les plus fortunées de France. Et donc ça, oui, ça revient beaucoup. Il y a de l'inquiétude. Et donc, effectivement, le climat est un peu anxiogène. C'est pour ça que il nous faut montrer qu'une équipe municipale, ça peut aussi apaiser des situations, ça peut aussi réconforter avec la question d'un pouvoir d'achat qui est renforcé localement. Bon, donc on essaye, nous, de porter un message de paix, parce que la paix, c'est le plus grand des combats, comme disait Jean Jaurès.
Très bien, merci. Alors, on revient à votre programme que vous avez découpé en 3 parties avec 3 priorités. La première, c'est unir Nîmes avec un sous-titre, en finir avec une ville à 2 vitesses. La deuxième, rendre le pouvoir aux Nîmoises et aux Nîmois. Et la troisième, donc, c'est l'avenir, c'est la réussite de la jeunesse, qui comprend différents thèmes. La jeunesse, solidarité, sécurité, logement, le sport, etc. Alors, la première question ensuite, donc en finir avec une ville à 2 vitesses. Alors, vous nous expliquez ce thème de ville à 2 vitesses.
Oui, alors c'est 2 vitesses et même peut-être plusieurs vitesses, mais en tout cas c'est beaucoup venu. Effectivement, on a engagé, nous, cette campagne électorale en se taisant. Donc là je parle, c'est agréable, mais pendant 1 an on n'a pas parlé. On s'est dit, les hommes politiques, ils doivent d'abord écouter ce qui se passe. Et avant de proposer quelque chose, on va d'abord écouter ce que nous disent les Nîmois. Et beaucoup de Nîmois nous ont dit qu'il y avait une fracture dans cette ville entre ceux qui sont intégrés, qui fonctionnent bien, qui vivent bien, et puis une population qui est souvent peu écoutée, peu considérée, voire méprisée. Il y a une ville qui se fait pour les touristes, où c'est propre par terre, où c'est bien entretenu, et puis une ville dans laquelle les quartiers sont bien moins nettoyés. Donc c'est cette idée d'avoir une ville qui parle à tout le monde, quelle que soit sa condition, quel que soit son quartier. Et donc c'est notre premier engagement. Et puis surtout, au-delà de ça, c'était la question du lien, la question du lien social. Et on voit que dans notre société, dans notre ville, il y a beaucoup de ruptures et de fractures. Et les gens qui nous ont parlé nous ont dit, il faut qu'on retrouve cette unité, parce que cette unité de la ville, c'est aussi ce qui nous fera avancer.
Et donc, vous avez basé votre projet sur le rendre le pouvoir aux Nîmois, sur la concertation, en fait.
Oui,
c'est beaucoup de concertation.
C'est le deuxième thème du projet. On a un pouvoir qui s'est, et puis c'est pas qu'à Nîmes, hein, c'est d'ailleurs en France, mais qui est très vertical, avec finalement on vote et puis derrière il se passe plus rien pendant 6 ou 7 ans. Et donc la volonté, c'est de dire on va vous rendre le pouvoir, non pas parce qu'on va se défausser, mais qu'on veut partager ce pouvoir, parce qu'en réalité, moi, ce que j'ai constaté, et je le constate tous les jours, c'est que si on veut faire avancer des choses, il vaut mieux que on soit très nombreux à le faire. Avoir le pouvoir, c'est pas en soi un but. Le but, c'est de transformer la vie des citoyens de cette ville. Et si on veut transformer la vie des citoyens de cette ville, il faut qu'ils s'emparent des choses. Et il y a plein d'initiatives dans la ville qui existent, mais qui sont des fois bloquées parce que, ben, parce qu'il n'y a pas d'écoute dans l'équipe municipale actuelle, parce que on se sent méprisé. Et donc, voilà. L'idée, c'est, on va faire ensemble. Il y a de la concertation, mais nous, on l'assume parce que si on a des projets qui sont concertés, ils sont d'abord plus adaptés et mieux acceptés. Et généralement, ça va plus vite. Il y a des exemples comme ça, hein, pour être très, très bref, je ne vais pas monopoliser le micro.
Non, mais c'est bien, au contraire.
Par exemple, ce qui s'est passé avec les Halles de Nîmes, puisqu'il y a un projet de rénovation des Halles qui a été très mal préparé par la municipalité et qui fait que ça a créé beaucoup de défiance entre les étaliers et la ville, et qu'aujourd'hui on ne sait plus vraiment ce qu'il faut faire. Bon, alors nous, on aurait aimé qu'on commence par dire, mais écoutez, les Halles, c'est un patrimoine commun des Nîmois, mettons autour de la table les étaliers qui ont des problématiques propres liées à leurs investissements et à leurs fonds de commerce qui doivent être renouvelés, mettons aussi autour de la table les clients, la ville, et regardons ce qu'il y a à faire d'un point de vue d'abord technique, parce que d'abord les travaux, ils doivent sécuriser le bâtiment, et est-ce que derrière il faut de l'embellissement ou pas, est-ce qu'on en a besoin? Moi je crois qu'il ne faut pas aseptiser les Halles, on a besoin de garder des Halles marchandes et alimentaires populaires, et puis on a besoin de les animer peut-être autrement dans une relation de confiance entre les étaliers et la ville, et donc comment on fait pour les gérer ensemble. Voilà. Et si on avait commencé par là, pardon, sans doute on n'aurait pas cette défiance entre aujourd'hui les étaliers et la ville.
Oui, pour revenir sur les Halles, je crois que vous avez eu une réunion avec les étaliers hier ou avant-hier après-midi.
Oui, avant-hier. Oui.
Et donc ça a donné quelque chose d'intéressant, de positif, cette réunion.
Oui, mais en tout cas les candidats qui étaient présents ont pu présenter leur projet. Donc bon, j'ai dit un peu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire ouais. Avant de faire des grands concours d'architectes comme a fait la ville pour savoir comment on embellissait la façade qui, à mon avis, pour l'instant, fonctionne comme ça. Il faut d'abord s'occuper de techniquement ce qu'il faut changer, voir si on peut faire les travaux pour éviter de déplacer tous les étaliers sur le boulevard Gambetta, parce que ça, on l'a pas chiffré non plus. Aujourd'hui, la ville ne l'a pas chiffré. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, voilà, nous, on s'est engagé à remettre à plat le système de la rénovation. Et puis, pour préserver les fonds de commerce des étaliers, parce que on arrive au renouvellement de cette occupation du domaine public, eh ben, nous proposons, nous, documenter, en tout cas de préfigurer ce que pourrait être une société coopérative d'intérêt collectif dans laquelle les étaliers sont partie prenante avec la ville, avec les clients, ce qui permettrait de sortir de la mise en concurrence qui fait peur aujourd'hui aux étaliers à juste titre.
Alors sur cet exemple, je comprends très bien la concertation, puis là il y a un noyau de personnes directement concernées que l'on peut réunir facilement, etc. Mais sur beaucoup d'autres décisions, comment vous allez faire pour avoir l'avis des Nîmois concrètement?
Concrètement, on l'a fait déjà pendant la campagne. Donc on a un peu une expertise, il suffit de mettre des gens autour de la table, et en fait quand vous mettez des gens autour de la table, ben, on se rend compte que non seulement ils ont envie de parler, donc c'est bien que les gens parlent, que deuxièmement ils s'écoutent et ils s'écoutent plutôt dans la bienveillance, et que troisièmement on arrive à trouver des solutions. Donc sur le plan de végétalisation partagée, qui est un de nos grands objectifs du mandat, puisqu'on veut transformer la ville, la revégétaliser, la renaturer, y apporter de la fraîcheur, de l'ombre et de l'eau, un peu à l'image de ce qu'ont toujours été les jardins de la Fontaine par exemple, hein, on a cette pratique-là, ou les promenades plantées du tour des boulevards, et ben, au lieu de dire on a un urbaniste qui dans son bureau va dire ça va être comme ça la ville, et ben, quartier par quartier, on va mettre des gens autour de la table, on va les faire débattre et on trouvera dans chacun des quartiers les endroits, les places, les rues sur lesquelles il faut commencer à travailler en priorité. Et ça se fait, mais en réalité on n'a pas l'habitude à Nîmes, mais dans beaucoup d'autres villes ça se fait déjà et ça marche.
D'accord, alors toujours dans ce thème-là, j'ai une question à vous poser, parce que j'ai lu dans le programme que vous voulez la transparence totale des ordres du jour du conseil municipal et des délibérations. Mais il me semble que c'est quelque chose de public.
C'est public.
C'est sur la transparence.
Oui.
Je comprends pas.
Non, c'est la publicité, parce que effectivement, c'est public. On peut accéder à l'ordre du jour du conseil municipal. Et aux délibérations, c'est sur le site, mais la visibilité, l'accessibilité est des fois un peu plus compliquée. Donc l'idée, c'est de dire, il se passe quelque chose au conseil municipal, il faut que davantage de Nîmoises et de Nîmois, même si après c'est pas forcément dans la vie quotidienne de chacun, mais puisse s'intéresser à ça. Donc ça passe aussi peut-être par la retransmission du conseil municipal en vidéo, parce que c'est pas le cas aujourd'hui, c'est le cas à l'agglomération, mais c'est pas le cas au conseil municipal, parce que la démocratie, ça s'expérimente, ça se voit, ça se mesure, et je pense que si on apprend, moi je suis professeur d'histoire géographie et d'éducation civique, donc je sais ce que ça veut dire, mais si on apprend ça à l'ensemble de la population, ben, tout le monde peut s'intéresser à la chose publique. Je crois vraiment que si nous voulons dans cette ville qui est une ville populaire, avec des difficultés, mais avec des ressources, nous en sortir, on va avoir besoin de faire tout ça ensemble, et donc il faut ouvrir le plus possible.
Tout à fait. Alors, quelque chose qui rejoint donc toute cette thématique, c'est que vous voulez faire un audit complet de toutes les délégations de services publics. Je crois que c'est indispensable,
oui.
N'est-ce pas?
Ben, c'est le rôle d'une collectivité. Alors, il y a différents services qui sont avec soit des gestions directes, soit des gestions déléguées à des opérateurs privés. Pour plus ou moins longtemps, il faut toujours contrôler où passe l'argent public. Et donc, comment c'est fait, quel est le service rendu au public. Donc, il ne s'agit pas de tout vouloir mettre en régie comme la caricature m'est faite par certains de mes concurrents ou adversaires. J'ai pas, de toute façon, on ne pourrait pas le faire. Mais par contre, on a quand même besoin de contrôler ce qui est fait. Et puis, si c'est mieux géré directement par la ville, il n'y a aucune raison pour que ça ne soit pas assumé directement par la ville.
D'ailleurs, vous voulez revenir sur la distribution de l'eau ? Essayer de le remettre en régie municipale.
Alors,
ce qui est un dossier, à mon avis, très
compliqué.
Très compliqué, oui.
Mais alors, je ne l'ai pas dit comme ça. J'ai dit que philosophiquement, nous pensons que l'eau est un bien commun et que devrait échapper aux intérêts privés. Je pense que ça, c'est plutôt juste. Mais que concrètement, on aura du mal à le faire dans ce mandat parce que la délégation doit être renouvelée dans très peu de temps, dans 18 mois. Et qu'un passage en régie municipale, comme ça se fait ailleurs, hein, c'est le cas à Nice, qui n'est pas plutôt une ville de droite, hein, c'est le cas aussi à Montpellier, ça prend du temps, ça se travaille. Et donc il ne s'agit pas de désorganiser le service, ni d'augmenter le coût de l'eau, parce qu'on aura mal préparé. Donc là, il va falloir repartir sans doute, puis de toute façon le principe a déjà été voté à l'agglomération, sur une délégation, mais il va falloir que la collectivité soit très présente et dise ce qu'elle veut faire dans le nouveau... dans le nouveau cahier des charges. Donc, et puis peut-être que dans ce cahier des charges, on demandera au délégataire qui sera choisi de préparer une possible mise en place de régie municipale au terme du prochain contrat.
D'ailleurs, à propos de l'eau, c'est un peu, on va étendre un peu le sujet, il est complètement anormal que les Français payent de l'eau à des tarifs complètement différents d'une ville à l'autre.
Ben oui, c'est bien sûr, c'est l'inégalité territoriale en fonction des lieux où on est.
Voilà. Alors qu'il y a d'autres, comme l'électricité, tout le monde paye l'électricité au même tarif, alors que l'eau, ça varie largement entre différentes collectivités.
Cela pourrait être un service public national comme l'est le service public de... Enfin, comme l'été en tout cas, parce que ça a un peu changé, mais il y a encore quand même des obligations de service public pour l'énergie, quoi, pour l'électricité et le gaz.
Tout à fait. Bien, écoutez, on va passer à la priorité numéro 3, et ça c'est pour l'avenir, c'est la réussite de la jeunesse. Alors là, vous avez particulièrement développé, alors je vous laisse le soin de représenter donc tout ce projet sur la jeunesse nîmoise et l'avenir de la jeunesse nîmoise, que ce soit en termes de formation, d'éducation, etc.
Oui, parce que en fait, dans la concertation large qu'on a fait, et les débats qu'on a pu faire, dans tous les quartiers, ce qui est venu comme un élément fédérateur, c'était la préoccupation de la jeunesse. On avait plusieurs questions, on a posé plusieurs questions. Quand on demandait aux habitants de la ville comment ils imaginaient Nîmes demain, il y avait un gros point d'interrogation. Il y a une très grande difficulté à se projeter dans l'avenir de cette ville. On ne sait pas trop où on va. Et quand on ne sait pas trop où on va, généralement, on avance difficilement. Et puis, il y avait une grande interrogation sur la jeunesse, parce qu'on voit... Ben, que c'est l'avenir, forcément, hein. C'est l'avenir de nos familles, c'est l'avenir de la ville, et en même temps, leur difficulté à s'intégrer dans la vie, à trouver du travail, et puis des fois leur vulnérabilité qui pousse un certain nombre de jeunes à tomber dans un certain nombre de trafics. Et donc, il faut qu'on s'occupe des jeunes, et ça a été une priorité partout dans la ville. Donc voilà, donc on a mis sur la table un certain nombre de projets, de processus, qu'on a travaillé avec les habitants aussi, pour sécuriser et pour faire en sorte que... Juste un chiffre, qu'on ne connaît pas peut-être bien, mais il y a plus de 40% des enfants de moins de 11 ans qui, dans cette ville, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc on est dans une jeunesse qui est vraiment très peu protégée. Donc on a besoin à la fois de les accompagner de la petite enfance avec un accueil pour les plus jeunes qui soit facilité dans les crèches notamment, de les accompagner à l'école parce que ça c'est du ressort de la ville, notamment dans les accueils périscolaires que nous voulons renforcer parce que c'est là aussi qu'on accroche les gamins sur des activités artistiques, culturelles ou sportives. Et puis après, c'est le fameux contrat de le réseau de réussite solidaire qui fait que nous voulons qu'aucun jeune ne reste sans écoute ni sans solution, parce qu'il y a des jeunes qui ont du mal à trouver un stage, une alternance, et ça nous revient souvent. On a de l'autre côté des entreprises qui sont prêtes à le faire, mais souvent il n'y a pas suffisamment de liens. Je dis pas qu'il y a des gens qui travaillent pas, parce qu'il y a des gens qui travaillent, mais la ville, à mon avis, doit jouer le rôle de mettre autour de la table tout le monde, et je suis sûr qu'on peut trouver des choses. Moi, quand je me rends dans les quartiers, les jeunes me disent mais nous on est prêts à faire, mais on est souvent blacklistés parce qu'on veut pas de nous ou parce que personne ne nous propose. Donc voilà, il faut s'occuper de cette jeunesse là parce que, et puis après c'est la pratique du sport, la pratique artistique, parce que quand on occupe une jeunesse, eh ben, elle se développe, elle grandit, et elle tombe pas dans les mains des trafics de drogue qui existent sur la ville aussi.
Oui, parce que ça devient des clients faciles pour les narcotrafiquants et de la main d'œuvre facile à manager, n'est-ce pas?
Ouais. Ben, en fait, les trafics, ils viennent pas de nulle part. Ils viennent se jeter sur un tissu social qui est tout complètement fragmenté et appauvri. Et donc, Il faut de la sanction, il faut de la justice, il faut de la police, pas de problème avec ça pour combattre la délinquance, j'ai pas de souci. Mais il faut s'attaquer, il faut prévenir ces vulnérabilités et faire en sorte que notre corps social soit renforcé. Donc ça passe aussi par le renforcement de l'action municipale ou des associations dans un certain nombre de quartiers.
Donc pour s'occuper, accompagner ces jeunes... vous allez créer un service dédié à cette action ?
Oui, il faudra que dans la ville, il y a un service jeunesse qui existe.
Oui, il y a un service de jeunesse. Oui.
Dans la ville ou à l'échelle de l'agglomération, peut-être à l'échelle des deux, mais il y ait un service qui soit renforcé, une direction de la jeunesse renforcée, pour permettre d'accompagner les jeunes vers l'emploi dans la ville. Ouais.
Mais écoutez, il est 11h20, je vous propose, puisque vous avez choisi une chanson, qu'on puisse l'écouter.
C'est une maison bleue, adossée à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble, après des années de route, et on vient s'asseoir autour du repas, tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrume, San Francisco s'allume, San Francisco. Où êtes-vous, Lise de Luc, Sylvia, attendez-moi. Nageant dans le brouillard, enlacés roulant dans l'herbe, on écoutera ta mala guitare. File à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux. Puisqu'il est heureux, on s'endormira. Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco. Où êtes-vous, Lise de Luc, Sylvia, attendez-moi. C'est une maison bleue, accroché à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas ceux qui vivent là pour jeter la clé. Peuplé de cheveux longs, de grands liés de musique, peuplé de lumière et peuplé de fous, elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco s'effondre, San Francisco s'effondre, San Francisco, où êtes-vous? Lisez les Lucs, Sylvia, attendez-moi.
Et bien voilà, donc c'était Maxime Le Forestier qu'on a écouté avec plaisir, ça ne nous rajeunit pas, mais c'est une très bonne chanson. On va continuer donc cet entretien, on va parler solidarité, sécurité. Alors j'ai vu que vous avez une proposition de mutuelle municipale. Alors j'aimerais savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est une mutuelle municipale, accessible à tous.
C'est un contrat, enfin ça existe ailleurs, dans d'autres collectivités, municipalités, c'est un contrat qu'on passe en commun, et donc comme on travaille sur des grands volumes, ça permet de réduire le prix d'une mutuelle de 20 à 30%, ce qui est quand même pas négligeable pour le pouvoir d'achat des habitants, parce que voilà, on sait que la santé c'est... c'est important, et aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui même se passent de mutuelle, enfin s'en privent parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'en payer. Donc ça permet de soigner mieux les gens, et on a besoin d'être bien soigné aujourd'hui.
Oui, tout à fait, mais je comprends pas la mutuelle. Vous dites un contrat global, etc., mais c'est la ville qui va payer une partie de la cotisation?
Non, la ville ne paie rien, mais comme elle apporte à la mutuelle qui est choisie des gens qui passent le contrat, en fait, sur des volumes plus grands, ça permet de faire baisser les coûts de la mutuelle. Voilà, c'est un contrat collectif.
Donc, oui, vous allez recruter, en fait, des adhérents pour cette mutuelle.
Oui, ceux qui le veulent, évidemment. Il n'y a pas d'obligation, mais il y a beaucoup de gens qui s'en privent aujourd'hui. Et puis, il y a beaucoup de gens qui prennent une mutuelle, mais qui leur coûte cher, quoi. Et donc, voilà.
Je confirme. Je confirme, les mutuelles, c'est pas donné. Alors, autre chose aussi que j'ai vu dans votre programme, c'est la mise en place d'une caisse locale de sécurité sociale de l'alimentation.
Oui, c'est des expérimentations qui existent, notamment là, ça s'est mené pas très loin d'ici à Montpellier. C'est l'idée que, alors, le principe de la sécurité sociale, c'est qu'on paye en fonction de ses moyens, et on reçoit, on reçoit ce dont on a besoin. C'est un principe historique de la libération qui, je pense, fait le bonheur de notre pays. Et aujourd'hui, on peut le faire avec un certain nombre de commerces qui participeraient de cette caisse de sécurité sociale, avec un prix, un abonnement qui est payé par les gens qui souscrivent, et qui permettent aux gens de... Donc ils payent en fonction de leurs revenus, et ils reçoivent de quoi manger, de quoi manger sainement, parce que ça permet aussi d'avoir des liens avec les agriculteurs. Alors il faut l'expérimenter sur des petits volumes d'abord, et puis ensuite il faut voir comment ça grandit, mais ça peut permettre à un certain nombre de personnes de se nourrir mieux et moins cher que ce qu'ils le font aujourd'hui.
Ça demande une organisation bien carrée.
Oui, mais on est capable, on peut faire des choses.
Mais c'est sûr. Eh bien, on va aborder le problème de la sécurité. Alors, j'ai vu que vous vouliez, en soutien avec l'État, la mise en place d'un commissariat de plein exercice à Pissevin. Alors, je vais faire une petite digression, mais comme vous êtes le quatrième candidat que je reçois, je vois que la sécurité, quoi qu'on en dise, c'est quelque chose qui vient beaucoup dans les discussions, donc avec les habitants de Nîmes. Et en fait... Et la sécurité et la santé, et on se rend compte en fait que ce sont des domaines qui relèvent des compétences de l'État, et qu'en fait les collectivités sont là pour compenser les défaillances en fait de l'État.
C'est souvent le cas, donc il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il faut évidemment demander des moyens à l'État et faire attention que tout ne soit pas délégué aux collectivités, notamment aux communes, sans transfert de moyens, parce que c'est un peu ça qui est en train de se préparer. Et il ne faut pas faire croire qu'on va pouvoir tout faire depuis l'hôtel de ville de Nîmes. Mais par contre, il y a quand même des choses à faire et il ne faut pas se résoudre à un certain nombre de choses et à la fatalité. Il y a un poste de police qui devait être inauguré entre poste mixte entre la police municipale et la police nationale à Pissevin, qui a eu un incendie à côté de ce poste de police qui a été du coup endommagé juste avant son ouverture. Je pense que c'est important de rétablir des services publics dans les quartiers, et notamment dans le quartier de Pissevin. C'est 12 000 habitants, et franchement, le niveau de service public est insuffisant. Et donc, je pense que c'est symbolique aussi de pouvoir y retourner, même si ça ne fera pas tout, et on a besoin aussi de travailler la proximité.
Oui, dans votre programme, j'ai vu que vous insistiez sur une police de proximité, en fait.
Oui, parce que ça manque beaucoup. Historiquement, il y avait une police de proximité, une police nationale de proximité, qui a été supprimée sous le gouvernement Sarkozy.
Sarkozy, oui.
Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde la regrette, parce que c'est dans le lien qui est fait entre la police et la population au quotidien qu'un certain nombre de choses se défont, de problèmes se défont, et puis qu'on arrive à éviter que des problèmes se créent. Et s'il faut sanctionner, je le dis encore, il y a des fois il faut sanctionner, j'ai pas de problème avec ça, mais il vaut mieux que les problèmes ne se passent pas, quoi, parce que de toute façon, une fois que c'est fait, c'est presque trop tard.
D'ailleurs, pour assurer la tranquillité publique, vous voulez absolument fermer les épiceries de nuit à 22h.
Bah, je pense
que c'est un problème que je connais un peu, que j'ai eu à régler dans une autre vie.
La question des épiceries de nuit. Alors évidemment, on peut comprendre que dans les grandes villes, il y a des épiceries qui restent ouvertes la nuit, etc. Le problème, c'est que c'est souvent le lieu et l'objet, je dis pas toujours hein, d'ailleurs, mais le lieu et l'objet de trafic, et qu'il faut réglementer ça, et que voilà, il faut avoir une position ferme sur ce sujet-là pour éviter que ça se multiplie. Et dans trop de quartiers, on voit ça d'ailleurs, ces épiceries sont fermées régulièrement parce que c'est la vente de cigarettes de contrebande, pas forcément de la drogue, mais souvent des cigarettes de contrebande, et ça crée un climat qui n'est pas favorable.
Et même sans parler de trafic, de mémoire, je me rappelle qu'il y avait beaucoup de plaintes des voisins de ces épiceries de nuit, voilà, pour les nuisances nocturnes, le trafic de voitures, les gens qui hurlent dans la rue, etc. Ouais. Et tout, donc c'est quelque chose d'important. Eh bien, on en arrive donc... il y a une question que je voulais vous poser concernant la ville où les femmes se sentent également en sécurité. C'est à propos de l'espace public et des cours d'école. J'ai quelque chose qui m'a interpellé. Vous dites pour que les filles et les femmes y trouvent toute leur place. Ouais. Il me semblait que les femmes et les filles ont trouvé leur place. Enfin,
ben non.
Ah bon ?
Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, quand j'interroge les femmes, notamment qui circulent dans la rue, et notamment dans certains passages quand elles veulent sortir, je pense aux alentours de la gare, derrière la gare ou sur l'avenue Feuchère, beaucoup de femmes me disent mais nous on passe plus là le soir parce qu'on a peur d'être importuné, pas forcément agressé mais importuné. Et je me dis quand même que c'est bizarre qu'il y ait des endroits selon l'heure de la journée, et c'est même pas forcément que la nuit, hein, où les femmes n'aient pas envie de passer. Et je pense que quand on est des hommes, et on est des hommes tous les deux, on se rend pas compte des difficultés pour les femmes de circuler dans un certain nombre d'endroits. Et ça, je pense que c'est pas possible. Et dans les cours de récréation, historiquement, ça va mieux, mais historiquement, vous savez, le terrain de foot au milieu de la cour de récréation. Et le terrain de foot, soit on impose des règles pour que les filles jouent avec les garçons, soit c'est les garçons qui préemptent. Et si vous regardez les cours de récréation, les petites filles, elles sont systématiquement repoussées au bord de la cour. Et je pense que ça n'aide pas à l'apprentissage d'un partage de l'espace équitable. Moi, je suis pour que tout le monde fasse du foot, y compris les filles. Mais si on peut mettre le terrain de foot un peu à côté et permettre à tout le monde d'utiliser l'espace central, c'est pas mal aussi.
Eh bien, écoutez, le temps qui nous était imparti arrive à son terme. Vous avez une minute pour conclure cet entretien. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie. Je voudrais dire à vos auditeurs et vos auditrices que on est à quelques heures là du premier tour des élections municipales, que notre ambition que nous avons tracée depuis maintenant 18 mois avec les Nîmoises et les Nîmois dans une large concertation, c'est de refaire de Nîmes une grande ville méditerranéenne qui compte et dans laquelle chacune et chacun compte. Et pour cela, nous avons besoin de tout le monde. Nous savons qu'il y a à Nîmes des ressources, qui sont des ressources importantes, que la ville a été ces dernières années un peu maltraitée par un pouvoir qui a été trop clanique, trop fermé sur lui-même, et qui a isolé la ville, qui a fracturé la ville. Et nous, avec les ressources de la ville, avec ses entreprises, ses associations, son université, nous voulons reprendre en main notre destin, en rendant le pouvoir aux habitants, pas en nous défaussant, mais en le partageant. Et puis on a besoin donc de vous le 15 et le 22 mars, et on aura besoin dès le 23 mars de vous encore pour transformer cette ville, la rendre plus solidaire, plus écologique et plus démocratique.
Eh bien, merci pour cette conclusion. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, si vous voulez, on se revoit la semaine prochaine.
Avec plaisir. Okay. Bonne journée.
Bonne journée.